Commençons par voir comment évolue le marché de l'alimentation. Comment se comporte le consommateur? L'évolution commerciale va-t-elle permettre un meilleur accès aux fruits et légumes? L'analyse de Gabriel Moreau, directeur de compte chez Nielsen.
Ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas tant des supermarchés, des épiceries, ni des pharmacies d'ailleurs. 1% de croissance pour ces deux réseaux-là. C'est beaucoup plus des clubs entrepôts. Donc, on parle de Costco. Quand on voit Mass Merch, c'est Walmart, magasin 1$. Le commerce en ligne, ça reste petit, mais ça vient jouer un bon rôle de croissance au niveau de l'industrie des produits d'épicerie. Donc, juste garder en tête, vraiment, Costco continue de gagner de l'importance dans le marché. Walmart, la même chose, c'est deux joueurs d'importance qui viennent vraiment voler les parts de marché aux épiceries plus traditionnelles et aux pharmacies. Quand on regarde les tendances consommateurs, bien justement, je parlais de Costco, je parlais de Walmart, les escompteurs, donc on parle Super C, Maxi au Québec, en général, eux également continuent de gagner de l'importance. Donc, des prix un peu plus bas, le consommateur canadien va beaucoup rechercher ça, spécifiquement au Québec. D'ailleurs, les Québécois, on est très friands des prix un peu plus bas. Donc, on continue de gagner de l'importance pour les escompteurs au pays. Même chose pour Costco et Walmart. Il y a certains joueurs qu'il ne faut pas oublier. Giant Tigers, je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui sont allés là dans cette année au moins une fois, mais c'est 28% la pénétration, c'est-à-dire 28% des Canadiens sont allés visiter un Giant Tiger dans la dernière année. Giant Tiger, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller dernièrement, spécifiquement en Ontario. Il y en a aussi au Québec. Ils ont des sections fraîches avec des produits frais de fruits et légumes très peu chers. C'est assez exceptionnel ce qu'ils sont capables de faire au niveau des prix. Donc, ils commencent à jouer beaucoup plus dans les produits d'épicerie. Moi, personnellement, c'est pas un détaillant que je pense quand je vais faire mon épicerie, mais ça gagne de plus en plus d'importance dans le marché au niveau du Canada. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres escompteurs qui vont venir, dans le pays? Il y a Aldi. Il y a d'autres joueurs européens qui, il y a quelques années, commençaient à regarder le marché canadien. Vu la tendance qu'on voit au niveau des consommateurs qui apprécient beaucoup ce genre de détaillants-là, on peut penser qu'un nouveau joueur comme celui que je viens de vous montrer pourrait vraiment venir changer le landscape au niveau des ventes d'épicerie au Canada. Une tendance intéressante qu'on voit, c'est la réduction des visites en magasin. On fait beaucoup moins de visites au magasin en chaque année pour acheter nos produits d'épicerie. Donc, ça devient un peu plus un one-stop-shop qu'on recherche. On va moins souvent sortir faire nos courses pour aller faire l'épicerie. Cette tendance-là est accentuée par les clubs entrepôts, par Costco. C'est des gros formats, c'est des gros paniers d'achat. Donc, c'est sûr que plus de gens vont magasiner là, plus le nombre de visites va en diminuant. Ce qu'on remarque, c'est justement 233 millions de visites de moins au Canada dans les 5 dernières années. Donc, c'est une tendance qui va s'accélérant. Quand on regarde qui fait ça, c'est les milléniaux. Les milléniaux font beaucoup moins de visites que leurs parents ou que leurs grands-parents en magasin. Et comme les milléniaux vont prendre de plus en plus d'importance dans le marché, on va voir que c'est une tendance qui va s'accélérer. Donc, moins de visites dans les épiceries. Les milléniaux, ils ont fait 240 visites dans les restaurants l'année dernière. C'est 100 visites de plus que leurs parents boomers. Donc, les milléniaux vont vraiment aller manger à l'extérieur de la maison. Ils vont aller visiter les restaurants. Donc, c'est à penser aussi quand on dit la moitié de l'assiette. L'assiette, le repas cuisiné à la maison, c'est une chose, mais les milléniaux ont de moins en moins tendance à faire ce genre de comportement que leurs parents ou leurs grands-parents avaient à la maison. 17% des milléniaux ont essayé des boîtes de repas l'année passée. J'en suis un et ça l'a fait skyrocket. Ça l'a fait énormément augmenter ma consommation de fruits et de légumes. Je ne vous dirai pas laquelle je fais, mais vraiment, dans les paniers, il y a une belle représentativité des fruits et de légumes. Donc, encore une autre manière d'aller rejoindre les milléniaux au niveau de leur assiette d'alimentation. Je parlais du one-stop-shop tantôt. Il y a un pharmaprix à Saint-Félicien. C'est une épicerie qui commence à vendre beaucoup de produits frais. Vous les voyez dans les pharmacies à Montréal également. Il y a de plus en plus d'importance d'accorder à la bouffe dans les pharmacies. Bien, on commence à avoir des sections fraîches qui apparaissent, des fruits et légumes qui apparaissent au niveau de ces détaillants-là aussi. Je parlais des milléniaux tantôt. Ces jeunes-là sont 30 % plus susceptibles d'acheter des produits bio, 20 % pour les produits cap, 20 % pour les produits verts. Donc, ils ont vraiment une conscience environnementale pour les produits organiques, les produits biologiques que les autres générations n'ont pas. Quand on regarde justement les produits bio, c'est 9 % de croissance au Québec pour tous les produits bio dans la dernière année, 5 % dans le reste du Canada. Vous voyez, au Québec, on est à 2,7 d'importance des parts de marché, si vous voulez, des produits bio dans le panier d'épicerie. On est encore en arrière versus le reste du Canada. Donc, en ce moment, on surperforme à 9 % mais on est encore en arrière versus les autres provinces au niveau canadien. Les ventes de fruits au Canada, dans la dernière année, quand on regarde au niveau du dollar, c'est 1 % de croissance. 2 % au Québec. Puis quand on regarde les ventes de produits bio au niveau des fruits, c'est 11 % de croissance. Au Québec, 25 % de croissance qu'on a vu dans les produits bio de fruits l'année passée dans les épiceries. Donc, vous voyez que ces tendances bio-là vont en s'accélérant. Au Québec, c'est vraiment important, ça fonctionne bien, 25 % de croissance pour les fruits. Si on regarde au niveau des légumes, dynamique assez similaire. Donc, vous voyez, c'est 9 % de croissance au niveau des légumes dans la dernière année en dollars. Quand on regarde pour les produits bio, 16 %. Puis si on regarde au Québec, c'est 20 % de croissance pour les produits biologiques. Donc vraiment une tendance assez importante qui impacte beaucoup les dynamiques sur les ventes de fruits et légumes. L'autre chose qui impacte cette dynamique-là, ce 9 %-là que j'ai montré au niveau des légumes, bien, c'est l'inflation. Donc, il y a eu des hausses de prix l'année dernière au niveau de beaucoup, beaucoup de légumes, un petit peu la même chose au niveau des fruits. Le chiffre que je montre en haut, plus 10 %, là, c'est l'inflation sur la catégorie des légumes. Donc, c'est 10 % d'inflation au niveau du prix sur les légumes, 4 % sur les fruits. C'est pas toutes les catégories, mais quand on voit au niveau des légumes un 9 % d'augmentation de vente, bien, le 10 % d'inflation vient expliquer cette augmentation-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les achats en volume, en kilos, si vous voulez, en épicerie pour les fruits et légumes, c'est en déclin versus l'année dernière. Donc, les hausses de prix ont vraiment mis un stop à l'achat de fruits et légumes. Ou du moins, pas mis un stop, mais ont définitivement freiné le consommateur à acheter des fruits et légumes en épicerie versus l'année d'avant.
Il y a donc l'offre qui évolue dans différents types de commerces. En parallèle, bien des gens, ici même dans notre société, n'ont pas accès ou n'ont pas les moyens de se procurer des fruits et légumes. Il y a dans 15 régions du Québec 19 banques alimentaires qui luttent contre la faim, en grande partie par un autre combat, la lutte au gaspillage alimentaire dans les épiceries. Annie Gauvin est directrice générale des banques alimentaires du Québec.
Une donnée qui est importante à mon avis et qu'il faut prendre en compte, c'est que depuis 2013, il y a une augmentation de la demande des repas pour les enfants de 49 %. C'est énorme. Alors, comment se fait-il qu'on ait ces besoins-là de façon si criante en période de plein emploi? Mais la principale raison, c'est vraiment le coût de la vie augmente. Même si les revenus augmentent quand on est en plein emploi, on a des facteurs de défavorisation qui sont importants et qu'on doit regarder, notamment au niveau du logement et du coût de l'épicerie. On a aussi plus de 365 000 paniers de provisions dans lesquels on va notamment mettre, entre autres, les denrées qu'on récupère par le programme de récupération en supermarché. Le programme de récupération en supermarché est parti en 2013 avec un projet pilote. Il s'est perfectionné en 2015. En 2017, nous l'avons lancé à la grandeur du Québec. Aujourd'hui, c'est 400 magasins des chaînes Loblaw, Metro et Sobeys qui participent. Éventuellement, on souhaite aussi adjoindre d'autres partenaires dans ce programme-là, mais actuellement, 400 magasins font en sorte que les moissons ont atteint leur pleine capacité. Mais il y a un goulot d'étranglement actuellement. Ça nous prend des infrastructures parce qu'on parle d'approvisionnement, de tri, d'entreposage et de redistribution. Ce sont des opérations, donc on doit être en mesure de faire ça pour approvisionner de façon plus adéquate l'ensemble de la population du Québec. Le programme de récupération en supermarché qui nous a permis l'an dernier de récolter 6,5 millions de kilos de denrées dans les 400 magasins. On a vu aussi dans les magasins qu'il y a eu une prise de conscience parce qu'au départ, on récoltait 2000 kilos par magasin par mois et on est aujourd'hui à 1100 kilos en moyenne par magasin par mois. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un effet de prise de conscience et nous, ça nous permet aussi d'ajouter des magasins. Et on souhaite, même à terme, pouvoir atteindre 8,5 millions de kilos de denrées. Donc, en 2022-2023, on prévoit avoir complété le déploiement dans les 145 magasins et avoir atteint le 8,5 millions de kilos de denrées. On a aussi d'autres programmes, et c'est là que, pour moi, c'est important que vous portiez attention, parce qu'au niveau de remplir l'assiette, on ne réussit pas actuellement avec le programme de récupération en supermarché et nos autres programmes de dons en denrées à remplir la moitié de l'assiette de fruits et légumes. Pour nos programmes en partenariat, on a bien entendu les producteurs de lait, les producteurs d'œufs, mais on a aussi un programme avec les producteurs de fruits et légumes de transformation et Bon Duel. Les producteurs, au début de la saison, décident de donner 1000 livres, 2000 livres, 10 000 livres, et à la fin de la saison, ce sont des légumes qui sont mis en canne et qui nous sont renvoyés dans le réseau des banques alimentaires pour qu'on puisse faire une distribution équitable sur tout le territoire québécois. C'est un des meilleurs programmes qu'on a, en fait, pour avoir des légumes frais. Ils sont en conserve, donc on n'a pas les enjeux de distribution et on a les ressources pour être capable de gérer cette denrée-là. On souhaiterait aussi en avoir avec d'autres producteurs. Dans chaque région, les moissons vont aussi récolter auprès de leurs producteurs. Et on se retrouve avec certains enjeux à ce moment-là. Ce qui est favorable pour nous, c'est quand on est capable d'avoir une structure d'approvisionnement qui est plus régulière, qu'on est capable aussi d'instaurer une façon de faire avec, comme on le fait avec les producteurs de fruits et légumes de transformation et Bon Duel, À ce moment-là, on sait ce sera quelle quantité, ce sera à quel moment ça arrivera dans nos entrepôts. Donc, on est capable de mobiliser nos bénévoles, on est capable de faire de l'espace dans les entrepôts de réfrigération, de congélation ou de sec. Et on est capable aussi de mieux connaître votre organisation pour être plus flexible quand vous faites des dons. Et à ce moment-là, ça facilite et de beaucoup l'acceptation du don. Aussi, quand on arrive dans des grosses périodes de production, on va parler de la tomate, par exemple, et que là, nos entrepôts sont remplis de tomates, on ne peut pas nécessairement écouler toutes ces denrées-là dans les organismes parce que c'est important aussi pour nous d'avoir une variété de produits dans les assiettes de nos gens. Donc, on va maintenant instaurer de plus en plus des cuisines de transformation, ce qui va nous permettre d'améliorer notre capacité de prendre les dons. Mais on veut aussi améliorer la redistribution. Donc, s'il y a plus de carottes dans un endroit puis plus de tomates dans l'autre, bien faire des trajets entre les moissons pour être en mesure de diversifier cet approvisionnement-là.
Aussi invité à la QDFL, le biologiste et professeur de sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi, Claude Villeneuve, commentait les énoncés de M. Moreau de Nielsen et de Mme Gauvin des banques alimentaires.
Il est impératif de comprendre que l'acte de vendre un produit, un fruit et légumes, il intègre l'amont de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous avez besoin d'avoir exactement les mêmes renseignements pour vous fournir, pour remplir vos tablettes, pour faire que Mme Gauvin a besoin d'avoir. Donc, il faut continuer cette planification-là en aval. Considérez que dans l'acte de vendre, vous avez une responsabilité envers le consommateur, mais vous devenez une partie de la chaîne d'approvisionnement pour les moissons. Alors ça, c'est la même logique, la même qualité de gestion que vous accordez en amont, il faudrait l'accorder en aval et on réglerait un ensemble de problèmes. Okay? C'est donc une des recommandations de penser le cycle de vie pour réduire le gaspillage alimentaire de manière structurelle. Okay. En ce qui concerne la présentation de M. Moreau, j'ai noté que oui, effectivement, vous reportez sur les boîtes alimentaires une partie de la responsabilité de vos choix alimentaires à cet endroit-là et vous êtes très heureux qu'on puisse vous accorder la possibilité d'avoir la bonne quantité de fruits et légumes. Au total, cette bonne quantité, c'est une bonne chose pour éviter le gaspillage alimentaire, mais ça implique beaucoup d'emballage.
Énormément
d'emballage. Et là, il y a une responsabilité qui vous est mise à vous et à la municipalité que ces emballages-là soient correctement triés, recyclés, revalorisés. Et on parlera ici d'économie circulaire.
Mais ces entreprises-là sont en train de changer aussi parce qu'il y a une entreprise québécoise qui offre un service de livraison à vélo avec des sacs réutilisables. Donc, il y aura peut-être aussi une responsabilisation en amont pour offrir...
Effectivement. Et puis, il y a des initiatives d'agriculture urbaine à l'heure actuelle, agriculture de proximité, des paniers d'approvisionnement.
Exact.
Ça fait partie des circuits alimentaires courts.
Ouais.
Et là aussi, il y a beaucoup de moyens d'optimiser la chose. Et par exemple, il y a des fermes au Saguenay qui vont offrir des paniers, mais les gens doivent ramener leurs contenants. Il n'y a pas de sens unique, là. Un des très grands problèmes qu'on a dans le domaine, c'est la linéarité du processus, alors qu'il faudrait repenser le processus pour qu'il rentre dans l'économie circulaire.
Mais le professeur Claude Villeneuve, spécialiste des sciences de l'environnement, profitait de l'occasion pour placer dans un contexte plus global le souhait de Santé Canada de nous voir établir nos menus à 50 % de fruits et légumes.
J'ai intitulé ça l'envers de l'assiette. Parce que dans le fond, qu'on remplisse la moitié d'une assiette de fruits et légumes, c'est très bien, c'est bon pour la santé, mais si on pense au cycle de vie des fruits et légumes, le cycle de vie, donc, des fruits et légumes, ou le cycle de vie de toute denrée alimentaire, ou le cycle de vie d'une canette d'aluminium, c'est une notion qui est une forme d'analyse des impacts environnementaux qui tient compte du berceau au tombeau. Donc, si on parle des légumes, ça va de la production des semences, la préparation des sols, les cultures, les pratiques culturales, la récolte, le transport, le conditionnement, l'emballage, la transformation. Bref, pour l'épicier, tout ça est intégré dans le prix qu'il va payer, puis ses activités à lui sont intégrée dans sa marge de profit. Et puis, au bout du compte, on dirait que la chaîne s'arrête là avec le consommateur. Mais dans les faits, le cycle de vie se poursuit au-delà du geste d'achat. Et généralement, les impacts environnementaux de l'alimentation, en amont comme en aval, sont des impacts qui vont augmenter l'empreinte écologique de la décision de remplir la moitié de son assiette avec des fruits et légumes, parce que, au fond, moi, je me suis intéressé à l'autre moitié de l'assiette déjà, parce que les fruits et légumes, c'est bien pour la santé, c'est excellent, mais l'autre moitié de l'assiette est importante aussi parce que les fruits et légumes n'apportent pas la moitié du contenu calorique. Okay? Il y a un besoin en quantité, puis il y a un besoin en qualité. Les fruits et légumes remplissent surtout l'aspect qualitatif. Donc, l'aspect quantitatif au point de vue calorique, il est apporté par les produits des grandes cultures, que ce soit des céréales, des pommes de terre. Bon, alors, on est encore peut-être dans la définition de fruits et légumes, mais l'aspect calorique est apporté par l'autre moitié de l'assiette essentiellement. Soit la viande, soit les légumineuses, soit les poissons. Ce sont les produits qui composent l'autre moitié de l'assiette auxquels il faut aussi penser parce que l'empreinte écologique de l'ensemble de l'assiette doit être considérée et on va voir quelle est l'empreinte écologique des fruits et légumes particulièrement. Et effectivement, cette empreinte écologique-là, elle est importante à considérer parce que la population humaine est en augmentation. Les Nations unies ont prévu qu'on serait 10 milliards en 2056. C'est que les populations des pays émergents, particulièrement la Chine et l'Inde, augmentent de façon significative leur demande protéique animale, ce qui fait que le niveau trophique de l'humanité augmente actuellement, même si dans les pays développés, on commence à manger moins de protéines animales. Il y a donc un enjeu là, qui est très important. On va manger plus de fruits et légumes, mais on va avoir des impacts de l'agriculture qui sont importants. Et ces impacts-là sont aussi générateurs d'une grande quantité de gaspillage. La FAO calcule qu'à peu près 40 % de toute l'alimentation qui est produite dans les champs est gaspillée à différentes étapes du cycle de vie.
Ici Lionel Levac. Ajoutez donc ces différents éléments d'analyse à la réflexion sur votre alimentation. Au revoir.